Première lecture, c'est Acte 9, 26 à 31. Acte 9, 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saul essayait de s'agréger aux disciples, mais tous avaient peur de lui, n'arrivant pas à le croire vraiment disciple. Barnabas le prit alors avec lui, l'introduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur la route, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'entretenait avec les hellénistes, c'est des juifs grecs, hein, des grecs qui se sont associés aux juifs. Hein. Il discutait avec les hellénistes, mais eux cherchaient à le faire périr. Les frères l'ayant appris le conduisirent à Césarée et de là ils le firent partir sur Tarse, qui se trouve aujourd'hui au sud de la Turquie. L'Église, sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie, vivait donc en paix. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait. Nous écoutons l'épître Jean 1, Jean 3. 1, Jean 3.
Mes petits enfants, n'aimons pas à parole et avec la langue, mais en acte et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il discerne tout. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance, et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement: adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit dont il a fait don.
Voilà, nous écoutons l'évangile dans Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15.
Alors, par l'intermédiaire de Jean, Jésus nous dit: je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite: demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, la même chose, c'est pareil. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples.
Je vais interpréter ces textes que nous avons écoutés à partir d'un verset, deux exactement, pour être simple, deux versets qui se trouvent dans 1 Corinthiens 8. Dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, les versets 2 et 3 seulement. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Je vais relire ces deux versets. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Vous voyez que le centre de gravité de la connaissance n'est pas en nous, là. Très clairement, le centre de gravité de la connaissance, il est dans Dieu. C'est que lui nous connaît. C'est ça qui est important. Et quand nous, on croit connaître, surtout les pasteurs, les théologiens, alors là, c'est toujours de l'orgueil. Et comme justement le verset précédent, Paul dit que la connaissance, elle enfle, que l'amour édifie. Plus on a de connaissances, et plus on est fier. Surtout les pasteurs, alors là, parce qu'ils ont des connaissances bibliques. Il y en a qui viennent leur cirer les pompes pour ça. Il y en a qui sont forts. Ah, wow, qu'est-ce que tu as une grande foi, qu'est-ce que tu as une connaissance de la Bible. Wow, et, oh, oui. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui fait que Dieu est présent, la connaissance qui vient de nous. Mais que Dieu nous connaisse. Et là, la réponse est plus de l'ordre de l'amour que de la connaissance en nous. C'est plus de l'ordre de l'amour. Paul dit, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. C'est comme ça qu'il faut interpréter le texte que Michel nous a lu dans Jean 15. Jésus dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, il l'émonde. Prenons vraiment les choses comme Jésus les dit. D'emblée, il nous dit qu'il est le cep et que nous, nous sommes les sarments. Ça fait un bloc. D'emblée, dans ses paroles, il nous présente comme étant déjà dans lui. Et souvent, on va plus loin pour... Ah bon, maintenant, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va souvent chercher ce qu'il faut faire dans la Bible. C'est bien, c'est bien. Et le problème, justement, c'est qu'on n'y arrive pas. Et qu'il faut écouter ce qu'il y a en amont. Avant qu'on nous dise de faire des choses,
Jésus nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il le dit d'un seul souffle. Vous voyez, et moi, dans ma vie chrétienne, je m'imagine souvent comme le sarment qui doit essayer d'aller dans le cep. Comme si, dans la nature, est-ce que vous avez vu des sarments qui se baladent là, qui cherchent, oh, où est-ce qu'il y a un cep où je pourrais me mettre dedans? Ouh, là, il y a un cep, ah, je vais essayer d'aller dans le cep là-bas. Vous voyez des sarments qui se baladent dans la nature comme ça, qui vont essayer de se mettre dans un cep, qui vont se mettre dans un pied de vigne comme ça, en cherchant à droite à gauche. Mais souvent, on vit notre vie chrétienne comme s'il fallait se mettre dans le Christ. Mais Jésus ne dit pas ça, que nous devons à tout prix nous mettre en lui. Allez, venez maintenant, greffez-vous en moi. Il ne dit pas ça. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il le dit en une phrase. Il pose les choses en même temps qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, que nous sommes déjà en lui. C'est ça la grâce que nous devons découvrir, que nous n'avons pas fait quoi que ce soit pour y être. C'est Dieu qui nous a mis en Christ. Et même tout ce qu'on demande, le baptême, la Sainte Cène, tout ce qu'on fait, c'est une conséquence. On reconnaît que Dieu nous a mis dans le Christ. On croit cette parole, on adhère à cette parole où Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors par contre, il nous dit, demeurez en moi. Aha. Il nous dit, demeurez en moi. Ah, on pourrait donc, ça aussi, ça n'existe pas dans la nature, un sarment qui se détacherait du cep, ça n'existe pas. Mais bon, le péché est tel dans le monde spirituel qu'on pourrait effectivement ne plus demeurer en lui. Demeurer en moi. Et qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ, demeurer en Jésus? Ou bien il nous dit tout simplement que demeurer en lui, c'est garder ses paroles. Tout se passe par la parole, tout ce que Jésus veut que ça agisse en nous, il le fait par la parole, par l'Esprit Saint. Alors demeurer en Jésus, c'est ne jamais oublier ce qu'on vient de célébrer, le Vendredi Saint, la Pâque. Là, nous sommes dans la période qui va vers l'Ascension, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, preuve que Jésus est arrivé auprès de Dieu, parce que l'Esprit Saint est descendu, parce qu'il ne serait pas parti si l'Esprit Saint, il n'avait pas une garantie que l'Esprit Saint viendra. Il dit à plusieurs reprises dans Jean, dans les chapitres, autour du chapitre 15 que nous avons écouté, il dit, je vous enverrai le Consolateur, c'est une certitude. Alors, demeurer en Jésus, c'est garder particulièrement toutes ces paroles où il dit que tout vient de là. Du fait que lui est allé à la croix, que lui est allé vers son Père, par ce chemin-là, par la mort, enterré aussi, 3 jours, ressuscité, c'est ce chemin-là. Ces paroles qu'il a dites à son propre sujet et qui nous concernent, qui font que nous demeurons dans le cep. J'ai pas de vigne en ce moment, mais j'ai pris un truc là, dans mon jardin. Ça, c'est des feuilles de pommier, hein, vous voyez. Et voilà un fruit d'un pommier. Voilà un fruit d'un pommier, voilà les feuilles d'un pommier. Des feuilles, il en faut, hein, sinon il n'y a pas non plus le fruit. Mais pour une vigne, il n'en faut pas trop. Pour tous les vignerons savent ça, pour la vigne, il ne faut pas trop de feuilles. Il en faut, mais pas trop. C'est pour ça que le vigneron, il est toujours en train de couper. C'est ce que Jésus dit, mon Père, il est toujours en train de couper. Ceux qui ne portent pas de fruits, ils sont carrément coupés complètement. Et ceux qui portent du fruit sont coupés aussi, mais pour que ça porte plus de fruits. Alors parfois, nous, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup de feuilles. Mais Dieu, il cherche ça. Il cherche le fruit. Il cherche le fruit. Et le fruit, c'est pas pour nous. Le fruit, c'est gratuit. C'est pour les autres. Le fruit, c'est pour Dieu. Alors, alors ces deux choses, regardez, sont quand même deux choses totalement différentes. Ça, c'est vert. Ça, c'est jaune. Jaune-vert. C'est deux choses totalement différentes. Mais c'est deux choses tellement différentes. Elles proviennent exactement de la même chose que vous, qui est là entre l'index et le pouce. Et vous ne le voyez pas. C'est une graine de pommier. Ces deux choses différentes viennent exactement de cette graine. Cette graine a produit ces deux choses différentes. Et vous voyez, la graine de pommier, ça ne se voit pas. Et le chrétien a toujours tendance à oublier que la croix, ça ne se voit pas. Quand je visitais le Maroc la première fois, j'ai dit « enfin un pays où je ne verrai pas de croix ». Si elle doit s'exprimer, ce sera dans la vie des croyants qui croient en Jésus. Parce que la croix visible comme ça, ça ne sert à rien. Mais la croix qui est visible par du fruit dans la vie de tous ceux que Jésus appelle les siens, ça c'est ce que Dieu recherche. La croix qui produit ce fruit. Voilà. C'est ça que Dieu recherche. Et Jésus insiste plusieurs fois sur ce fruit que Dieu recherche. Et le but d'un vigneron, c'est que ça produise du fruit. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu un Dieu sadique. Alors, comment peut-on parler d'un Dieu sadique si tout part justement de cette graine? De cette mort de Jésus, Dieu nous a prouvé son amour en donnant son Fils. Son amour est totalement donné à l'être humain dans son Fils, totalement donné. Et les choses que nous ne comprenons pas, c'est difficile, je pense, pour un sarment de comprendre qu'il est coupé sans arrêt. Je pense que c'est difficile à comprendre pour le sarment. Et peut-être même il ne le comprend pas. Mais, voyez, Paul dit... Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu, quoi qu'il arrive. Nous l'aimons. Parce que lui nous a donné dans ce grain qui est tombé en terre, dans la mort de son Fils, il nous a donné une preuve. Une preuve définitive de son amour. Qu'on ne pourra jamais en vouloir à un Dieu qui nous aime tellement. Alors on peut exprimer la révolte. La Bible nous encourage à exprimer une révolte. Il y a beaucoup de psaumes qui expriment les révoltes. Même celui qu'on a lu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est fort. Tu ne me réponds pas. Il parle fort à Dieu. Mais Dieu aime la sincérité. Dieu aime les prières vraies. Pas les prières qu'on fait pour lui plaire, mais les prières où on dit vraiment ce qu'on a dans les tripes. Parce que lui, il vient dans les tripes, il ne vient pas dans l'intelligence. Il va nous changer par l'amour, plus que par de la connaissance. Parce que nous ne connaîtrons jamais réellement qui est Dieu, si ce n'est par le Saint-Esprit qui nous fait découvrir de plus en plus de choses. Mais Paul dit, notre connaissance, même tant que nous sommes sur terre, elle est partielle, notre connaissance. Nous ne connaissons que de façon brouillée, confuse. Par contre, l'amour, ça c'est du concret. Et l'amour, nous l'avons entendu dans l'épître, que... Bon, ça ne s'appelle pas Christian, ça s'appelle Jacqueline. Dans l'épître que Jacqueline nous a lu, l'amour, c'est concret, c'est pas du verbiage. L'amour, c'est avec notre corps. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, si vous voulez demeurer en moi, vous gardez mes commandements. Parce que moi, je demeure dans mon Père en gardant les commandements qu'il m'a donnés. Et le commandement que Jésus nous a donné, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vais vous donner quelques éléments que moi, j'estime qui font partie de l'amour les uns pour les autres. D'abord, on aime avec nos pieds. Ça commence comme ça. Avec nos pieds. Nous sommes tous venus dans ce temple avec nos pieds. C'est comme ça que ça commence, l'amour. On va au temple. On va à la réunion de ceux qui ont fait l'expérience de la foi. Parce que dès que y a eu des témoins du ressuscité, tout de suite ils se sont regroupés pour partager avec les autres les apparitions du ressuscité qu'ils avaient. Chaque fois que quelqu'un a rencontré le Christ, il va trouver d'autres. Donc le fait de se réunir n'est pas une option. Voilà, moi je suis croyant, mais je viens pas au temple. Bon, oui, moi je juge pas, hein. C'est tout à fait possible, hein. Mais il y a quelque chose que moi je comprends pas. La première chose quand on aime, c'est d'être avec les gens. C'est tout. C'est déjà ça. Première chose, c'est d'être avec les gens. Et dans ce passage, Jésus nous parle aussi d'une autre façon, d'une autre expression de l'amour. Il dit, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Et juste avant, c'est au verset 8, au verset 7, il nous dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. C'est ça le fruit. Demander et recevoir de Dieu. Et ça, c'est du fruit. Et alors, voilà, je rejoins la prédication d'Alain dimanche dernier. Il nous a parlé de la prière. Et Jésus nous en parle souvent, là, de la prière. Aimer les autres, c'est prier pour eux. Alors, voilà, ça, je peux pas dire beaucoup de choses là-dessus, parce que moi-même, je suis en apprentissage. Je suis toujours en apprentissage. J'ai très besoin d'apprendre à ce sujet, de pratiquer d'abord. Hein? Parce qu'on peut aussi dire les prières. C'est pas mal aussi, non, de se forcer parfois. C'est pas mal aussi. Les Juifs, ils disent les prières tous les matins. Et s'ils ont un train à 6 heures, ben, ils se lèveront à 4 heures du matin pour avoir le temps de faire la prière. Ils la font 3 fois par jour, même en présence des gens. Si on est en public, ben, tant pis, on fera en public. Mais on dit la prière. Bon, c'est une façon de... Et pas juger ça. Il y a certainement aussi un témoignage là-dedans. Mais Jésus nous parle d'une prière et moi, je veux vivre cette prière. Et je ne peux pas vous dire les solutions pour la vivre parce que il dit tout ce que vous demandez, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Wow. Et il le dit plusieurs fois. Et voilà. Vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous arrivera. Et ça, ça fait du fruit. Et c'est ça que mon Père recherche. Alors bon, voilà, moi je suis en apprentissage dans ce domaine. Quand j'étais jeune, mes parents ont essayé bien sûr de m'évangéliser, hein, toutes les manières possibles. On m'a envoyé dans des réunions d'évangélisation. Je me suis converti chaque fois qu'il fallait se convertir, mais j'étais toujours pas converti. Mais enfin, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait faire. Hein, ça, voilà. Mais l'évangile, c'est pas une obligation, c'est pas une loi. Et alors, dans toutes ces réunions où on m'a envoyé, j'ai fait un camp biblique à Sumène. J'étais ado, alors voilà, on imitait bien les autres. J'étais bien un vrai ado comme les autres, rebelles et tout. Et il y avait encore une fois un type qui nous expliquait qu'il fallait aller à Jésus, qu'il fallait recevoir la nouvelle naissance. Moi, je suis quand même allé le voir, je lui ai dit, parler avec lui. Voilà, il s'appelait Ralph Chalice. C'est un homme qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la Bible. Alors du coup, les années suivantes, j'ai lu la Bible, beaucoup, beaucoup. Enfin, vous savez ce qui m'a marqué le plus chez cet homme, c'est que quand je l'ai revu 2 ans plus tard, il m'a demandé comment j'allais, alors que j'avais eu un seul entretien avec lui, alors j'étais parmi d'autres jeunes, et il m'a dit, je prie pour toi. Alors ça, encore aujourd'hui, ça m'a touché qu'un homme vieux prie pour moi qui était ado. Moi, ça m'a touché. Et qui prie sur la durée, comme ça. Il faisait ça pour tous les jeunes avec qui il avait eu un entretien. Vous voyez, je crois que nous devons continuer dans la ligne que Alain nous a indiquée, prier. Alors, on ne peut peut-être pas prier tous les jours, hein, et il ne faut pas non plus se mettre sous une culpabilité. Il faut prier, on va prier. Mais c'est Jésus lui-même qui nous parle de cette prière. Et que c'est ça le fruit, que le fruit c'est cette prière aussi, exaucée par... Et Dieu ne veut pas mieux que de faire que le fruit abonde. Et c'est par la prière. Et là aussi, dans ce texte, nous trouvons ce par quoi j'ai commencé, que nous sommes connus de Dieu, que Jésus nous présente comme déjà unis à lui, c'est déjà fait. Nous sommes les sarments, lui c'est le cep, sommes déjà intégrés en lui. Il le dit aux disciples, comme ça, et recevons ces paroles. Parce que Jésus dit aussi dans ce passage, un peu plus loin, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, rebelote. Il nous redit encore une fois qu'il y a la prière en son nom, qui va être exaucée. Et tout ça est un fruit de cette graine-là, que vous ne voyez pas, j'ai toujours dans la main là, cette graine-là. La croix où Jésus a été rejeté de ce monde, mais où Dieu nous a sauvés. Amen.